na beleli na zolela Adolf Muteba jila mwina awa na zamote mapasi mama wa
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce mercredi 12 juillet. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet, tenu au palais présidentiel d'Abidjan Plateau, a adopté un projet de loi dans le cadre des mesures générales portant modification de la loi relative au pouvoir exécutif et législatif, et ce, en présence du chef de l'État ivoirien. Gestion des prévisions de trésorerie, le PAGEF renforce durant 5 jours les capacités d'une 30aine d'agents de la Direction générale des financements à Yamoussoukro afin d'assurer une gestion plus efficace de celle de l'État exécutée par les comptables publics. Hors de la Côte d'Ivoire, nous irons en Guinée pour la reprise lundi dernier du procès de l'ex-dirigeant d'Addis Camara, Tierno Yanoussa, de la radio-télévision guinéenne. Nous ferons un point sur cette reprise. Et puis Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire est prête à fournir une CAN d'exception hier mardi au stade de Bimpe, où se joueront notamment les matchs d'ouverture et la finale. Le président du COCAN, Albert-François Ramicha, s'est montré très confiant quant à la bonne tenue de l'événement. Voilà pour les essentiel. Modification de la Constitution, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 12 juillet et présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a adopté un projet de loi sur la question concernant les pouvoirs exécutifs et législatifs. Des détails avec le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly.
Ce projet de loi prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution lié essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Il instaure notamment 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental et coordonner au mieux le processus d'élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l'État. En outre, les chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16 portant sur les dispositions transitoires et finales intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République et de la vacance de la présidente de la République et du statut des institutions et contenant les articles 179 à 182 étant devenus caducs, ils sont appelés à être abrogés.
Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly. Élections municipales et régionales couplées du 2 septembre prochain en Côte d'Ivoire. La réception des dossiers de candidature ouverte le 1er juillet prend fin le 19 juillet 2023. Mais les candidats potentiels indépendants, tout comme les partis politiques, ne se bousculent pas au guichet ouvert pour la circonstance au siège de la commission électorale indépendante à Cocody. Le Rassemblement des Eufautistes pour la démocratie et la paix a fait savoir aujourd'hui qu'il sera dans le temps. Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint, chargé du processus électoral au RHDP.
Au niveau du RHDP, il n'y a aucun souci. Les dossiers des candidats vont être déposés à la commission électorale indépendante dans les délais requis. Nous sommes dans notre chronogramme. Le jeudi 13 juillet 2023, le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, va procéder à l'investiture de l'ensemble des candidats du RHDP. Après cela, les dossiers des candidats du RHDP vont être acheminés progressivement à la CEI, étant entendu que nous respecterons les délais qui ont été donnés par la Commission électorale indépendante. Nous avons déjà reçu, au niveau du secrétariat exécutif adjoint chargé des élections, nous avons reçu des dossiers, nous procédons à des vérifications. Et si nous constatons qu'il y a des manquements, nous demandons aux candidats d'aller faire les compléments ou faire les corrections avant d'envoyer les différents dossiers à la commission électorale indépendante. Donc c'est ce travail qui est en cours. Et donc, juste après l'investiture, vous nous verrez à la commission électorale indépendante.
Alors, le RHDP respectera-t-il le quota des femmes?
Oui, le RHDP va respecter le quota des femmes. C'est une obligation légale. Mais c'est aussi une volonté politique au niveau du RHDP.
Tout comme le RHDP que vous venez d'entendre, le FPI de Pascal Affing s'en rassure ses militants, ses partisans et la population qu'il déposera à temps la liste de ses candidats. Le parti est en ce moment en train de procéder au tout dernier réglage avant ce dépôt de dossier de candidature. Sangare Issiaka, le secrétaire général et porte-parole du FPI.
Il faut dire que rien ne coince. La liste des dossiers donc à fournir demande la mise en œuvre d'un ensemble de diligences, notamment pour les aspects relatifs aux certificats de nationalité, les aspects relatifs aux aspects d'acte de naissance, la régularité fiscale. Donc il y a déjà ces éléments. Les pièces sont en train d'être réunies et donc acheminées et pour être centralisées au niveau de la direction du parti. Et de l'autre côté, vous savez bien que dès lors que nous avons signé un partenariat avec le RHDP, et comme on a dit, si nécessaire, il y a des alliances locales qui peuvent être mises en œuvre par rapport à ces élections-là. Il faut aussi tenir compte de la présence des femmes, telle qu'il a été arrêté. C'est donc dire que tout est en train de se mettre en marche et que certainement, à partir de ces jours à suivre-là, la plupart des dossiers seront présentés.
Mais au FPI, allez-vous être dans le temps?
Oh oui, il est bien évident qu'il n'y a aucun problème sur cette question. La plupart des dossiers sont en train de rentrer et les échanges avancent très bien dans les circonscriptions où nous sommes en partenariat. Nous estimons que le délai pourrait être tenu en l'état actuel des choses.
Sangare Issiaka, le secrétaire général et porte-parole du FPI. Avant lui, vous avez entendu Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP. Tous deux ont été joints par Soro Adams. Et de rappeler que les guichets pour la réception des candidatures sont ouverts de 8h30 à 17h tous les jours, samedi et dimanche compris. La ville de Yamoussoukro abrite depuis hier, nous le disions en titre, et ce, sur 5 jours, un séminaire de formation des agents de la Direction Générale des Financements sur la prévision de trésorerie, initié par le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de s'approprier les techniques de gestion de la trésorerie afin d'assurer une gestion plus efficace de la trésorerie de l'État. Des détails avec Émile Yao.
Dans un contexte financier mondial difficile où la gestion financière devient un enjeu central, il importe de revoir les méthodes, connaissances et techniques nouvelles qui permettent d'être beaucoup plus efficaces, se félicite Jules Koulibaly, directeur général adjoint des financements.
Ce séminaire constitue incontestablement une véritable opportunité qui permettra d'apporter de sérieuses perspectives aux différentes préoccupations. C'est en cela que je me félicite de la qualité des participants qui augurent d'échanges fructueux et pertinents, desquels découleront des propositions concrètes qui nous aideront à contribuer significativement à l'amélioration de la gestion de nos pays.
C'est d'ailleurs pourquoi le coordonnateur adjoint du projet d'appui à la gestion économique et financière d'Éré Victorien exhorte les auditeurs à tirer une meilleure partie de cette formation.
Chers participants, cette formation est une opportunité qu'offre le projet PAGEF pour accroître vos niveaux de connaissances sur le concept de trésorerie, la gestion prévisionnelle de trésorerie et sur tout autre concept lié au sujet, afin d'assumer pleinement cette fonction.
Ouattara Nabi Brahima est le représentant du directeur du Centre d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest.
Je dois dire que le sujet est au centre des préoccupations mondiales et singulièrement de notre région. En effet, renforcer aujourd'hui les capacités des acteurs en charge de la prévision et de la gestion de la trésorerie, c'est donc contribuer fortement à permettre à cette fonction vitale pour l'État de jouer pleinement sa participation.
Prévue pour s'étendre sur 5 jours, cette formation est financée par la Banque africaine de développement. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
La pose de la première pierre du 4e centre de service civique a eu lieu le vendredi 7 juillet dernier à Tiro-Niaradougou, localité située à environ 5 km de Korogo à travers la construction de ce centre. Il est question d'accorder une seconde chance aux jeunes en difficulté qui bénéficieront de la formation à un métier pour garantir leur insertion dans le tissu socio-économique d'un encadrement civique et citoyen avec un accent mis sur des valeurs comme la fraternité, le courage, la rigueur, la discipline, entre autres. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
La lutte contre la vulnérabilité des jeunes à travers le centre de service civique est assortie d'une innovation annoncée par Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique.
J'ai décidé d'avoir une gouvernance inclusive, donc un conseil de gestion dans chaque centre de service civique, avec l'implication des collectivités territoriales, représentation donc des régions, des mairies, des préfets, des chefs du village, etc., pour que la gestion du centre de service civique soit vraiment l'affaire de tous.
Quid de la prise en main de ces jeunes, il explique.
Ils ont un parcours donc de 9 mois, 2 à 3 mois de prise en main par la gendarmerie, l'armée, pour inculquer les notions de discipline à ces jeunes. 4 à 6 mois d'apprentissage à un métier, donc des ateliers de formation, et qui permettraient donc à ces jeunes-là d'embrasser des métiers dans le domaine de l'agriculture, de l'écologie, coiffure et esthétique.
Une politique en faveur de la jeunesse et des objectifs annoncés par Fidel Sarasoro, ministre et directeur de cabinet du président de la République.
D'ici 18 mois, ce sont 14 centres de services civiques d'une capacité annuelle de traitement de 1000 jeunes chacun qui seront construits, portant ainsi à 14 000 par an notre capacité de traitement des jeunes en situation difficile, des jeunes que nous avons souvent laissés en cours de route.
Retenons que le centre de service civique de Tiro-Niaradougou sera fonctionnel dans 7 mois, soit en février 2024. De retour de Tiro-Niaradougou, Marcel Bonny Korogo, Radio de la Paix.
Il a écrit avec des lettres d'or l'histoire du cinéma ivoirien, acteur majeur de l'espace cinématographique africain, cinéaste et très grand homme de culture. Le réalisateur ivoirien Roger Nyambala est décédé le lundi 10 juillet 2023. Il aura marqué son passage dans le paysage audiovisuel ivoirien et cinématographique avec des films Au nom du Christ, Grand Prix et Talon du Yenenga du FESPACO 1993. La même année, Roger Nyambala a obtenu le prix de la jeunesse au festival de Locarno en Suisse. Il est également lauréat du Grand Prix du court-métrage à Dinar pour le film Amanié. Sur son parcours professionnel, le témoignage du docteur Félix Alain Taï, ingénieur culturel et artistique.
Yohann Bala a commencé en tant que réalisateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne en 70. Et déjà, il s'est illustré avec des courts-métrages. Je pourrais parler de Amanié, qui avait déjà fait sensation. Ensuite, à partir de 84, quand il aborde sa phase des longs-métrages, Yohann Bala signe Le Chapeau. Il signe également Ablakon avec Kodjo et Bouclé, qui sont des films importants dans la grammaire cinématographique ivoirienne. Yohann Bala est aussi l'auteur de Bouka et du très connu étalon de Nyenenga Au nom du Christ avec Pierre Gondo, Akissi Delta, Nakissi Savané. Donc c'est 50 ans de cinéma ivoirien qu'il a couvert et donc oui, c'est un acteur majeur de l'espace cinématographique africain. Il disparaît après les départs très regrettables de Kitia Touré, de Yeo Kozoloa, de Fadiga Kramo-Lanciné, qui a été le premier étalon de Yenenga, Henri Duparc avec Balle Poussière notamment, La Vie Platinée, Désiré Carré aussi, Visage de Femme. Ce sont des cinéastes importants qui sont partis dans la nuit du temps, mais leurs œuvres restent impérissables. Ils resteront des références pour la cinématographie ivoirienne et africaine.
Docteur Félix Alain Taï, ingénieur culturel et artistique. Hors de nos frontières en Guinée, le procès de l'ex-dirigeant d'Addis Camara et de ses proches, jugé pour le massacre le 28 septembre 2009 de plus d'une centaine de personnes, a repris le lundi dernier. Cela après avoir été suspendu plus d'un mois à cause de deux grèves successives d'avocats et de personnel pénitentiaire. Sur comment s'est déroulée cette reprise de procès, retrouvons notre confrère Tierno Younoussa de la RTG Radio-Télévision guinéenne.
Depuis la reprise, il y a eu rebondissement dans ce procès parce que M. Maître Guiavogui, qui se faisait appeler à l'époque neveu du président d'Addis, comme très influent, qui avait opté pour le silence à l'époque, finalement avait menacé de sortir de son silence pour expliquer véritablement ce qui s'est passé. Donc finalement, on a vu quelqu'un qui est venu charger son ancien mentor pour dire voilà, tout ce qui s'est passé au stade d'Addis. Donc ce rebondissement vraiment bien, si vous voulez, compliquer le sort de David, je ne suis pas le juge, puisque le tribunal travaille dans le cadre de la manifestation de la vérité. Donc le tribunal a estimé qu'on pouvait interrompre d'abord la comparution des parties civiles au profit d'un accusé qui jure de venir dire toute la vérité dans ce procès.
Alors, mais la suite, ce sera quoi?
Bon, le procès a été, après quelques 31 heures de temps d'audition, finalement, compte tenu de l'état de santé de M. Toumba Diakité, un accusé, je ne veux pas dire poids lourd dans ce procès, mais ce qui est sûr, on ne pouvait pas continuer à auditionner M. Marcel Kilavogui à l'absence de Toumba. Finalement, le président a opté pour le renvoi de l'audience.
Tierno Younoussa de la RTG Radio-Télévision guinéenne a été joint par Jean-Claude Comé en Guinée. Espoir pour football, avant de refermer ce journal, la Côte d'Ivoire doit être dit être prête pour une organisation réussie de la CAN 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Toutes les mesures sont prises ou presque en voie de l'être à cet effet. Cette information a été donnée par les parties prenantes hier mardi à l'occasion d'une conférence de presse juste avant une visite du stade Alassane Ouattara d'EBMP, compte rendu Junior Cardin.
À quel moment les visites des infrastructures pourront se faire afin de s'assurer du niveau d'évolution de leur réalisation, suivant la réponse du président du comité d'organisation de la CAN, François-Albert Amicha?
L'entreprise qui a été choisie pour construire, c'est une fois qu'elle a remis au ministère des Sports et que le ministère des Sports remet au COCAN pour remettre à la CAF, à partir de ce moment-là, on peut organiser des visites.
Les acteurs de la CAN ont profité de l'Assemblée générale de la CAF qui va se tenir en Côte d'Ivoire pour organiser cette première rencontre. Mais au lendemain du tirage au sort pour la compétition, dans les semaines à venir, des visites seront organisées sur les 6 sites. Mi-août ou fin août, la réception des infrastructures par la CAF pour la compétition va se faire, a annoncé Samson Adamo, directeur des compétitions de la CAF.
On a énormément de temps pour mettre toutes les installations sportives pour préparer dans le contexte de la CAN. Et pour commencer l'aspect de branding, pour mettre aussi l'Internet et tout ça, vraiment, c'est en cours.
Le ministre ivoirien des Sports, Paulin Claude Danho, a assuré les journalistes quant à la détermination des autorités ivoiriennes à offrir une bonne Coupe d'Afrique.
Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, tient à offrir à la jeunesse africaine la plus belle et prestigieuse CAN jamais organisée en Afrique. C'est un engagement réel. C'est traduit sur le plan des investissements structurants dans tous les domaines. La Côte d'Ivoire est donc prête. Elle est déterminée à accueillir l'Afrique.
Notons que pour la CAN 2023, le stade Alassane Ouattara de Bempe accueillera le match d'ouverture le 13 janvier.
Merci à Junior Cardin pour ce compte rendu et c'est sur cette information que se referme le journal, ce qui en a fait l'essentiel. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet tenu au palais présidentiel à Abidjan Plateau a adopté un projet de loi dans le cadre des mesures générales portant modification de la loi relative au pouvoir exécutif et législatif et ce en présence du chef de l'État ivoirien. Gestion des prévisions de trésorerie, le PAGEF renforce durant 5 jours les capacités d'une trentaine d'agents de la Direction générale des financements à Yamoussoukro afin d'assurer une gestion plus efficace de celle de l'État exécutée par les comptables publics. Fin de ce journal, la rédaction sera de retour demain jeudi dès 7h sur les antennes de Radio de la Paix. Merci et bonsoir.
Radio de la Paix, mieux comprendre les enjeux.